pour louer Dieu. Je vous invite d'abord à écouter le psaume qui nous est proposé pour ce matin, quelques versets du psaume 69, les versets 14 à 19 et puis 30 à 37. Je te prie, Seigneur, c'est le moment de m'écouter. Ô Dieu, ton amour est immense. Réponds-moi, car tu es mon sauveur. Ne me laisse pas m'enfoncer dans la boue. Arrache-moi à ceux qui me détestent. Que l'eau ne m'entraîne pas, que le fossé ne m'avale pas. Seigneur, ton amour me fait du bien. Dans ta grande tendresse, tu te tournes vers moi. Viens près de moi, sauve ma vie. Quand je suis malheureux et que je souffre, ton secours me protège, ô Dieu. Et je chante ton nom, j'annonce ta grandeur en te disant merci. Les gens simples sont dans la joie. Longue vie à vous qui cherchez Dieu. Ciel et terre, les mers et tout ce qui remue en vous, chantez la louange du Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant le psaume 81. Le psaume 81, alors excusez-moi, je vous dis juste la page, page 96, et nous chantons les quatre premières strophes. J'entendais ce matin sur France Culture le pasteur Jean-Christophe Robert parler de la fête de la musique et de dire que pour les protestants, et Martin Luther en particulier pour les réformateurs, ce n'était pas tant la fête de la musique que la fête par la musique de la gloire de Dieu. Et c'était la réforme qui a remis à l'honneur ces chants en langue du peuple pour pouvoir louer Dieu. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, je marche aujourd'hui révélé par ta parole. Qui dites-vous que je suis? Cette interpellation est-elle pour moi ou pour les autres? Certains savent trop parfois. D'autres se découragent et alors s'arrêtent au milieu de rien. Et moi, où j'en suis sur mon chemin? Il m'arrive d'étendre les bras et de ne pas te trouver. Il m'arrive de te saisir, de te rejoindre, toi, compagnon de mes marches. Qui dites-vous que je suis? Oui, c'est vrai, parfois tu es dans ma vie, tu la remplis. Mais à d'autres moments, je te cherche et je ne te vois plus. Il arrive qu'avec mes compagnons de marche, nous te comprenions. Mais il arrive aussi que nous quittions le chemin sans toi. Du fond de mes petites et grandes joies, du fond de ma tristesse, dans la routine de mes jours, je me présente à toi, Seigneur, fidèle compagnon de ma marche. Amen. Pour entendre la parole de grâce et de pardon, je vous invite à vous lever. Du silence à la question s'élève un sourire. Du silence de ma réponse se dresse la grâce de l'accueil de notre Seigneur. Simplement viens, nous dit-il. Du silence de ma foi s'élève ta croix, fardeau que tu me permets d'embrasser. Sourire, grâce, accueil, ta croix, c'est ton pardon pour nous, marcheurs de ton Église. Et maintenant, dites-le au plus grand nombre. Disons-le ici, à Annecy. Dehors, chez nous, au travail, dites-le, disons-le là où nous sommes. Amen. Chantons notre reconnaissance. Restons debout pour écouter ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, je vous propose d'écouter des versets qui nous sont proposés pour les lectures du jour. Dans le livre « La lettre aux Romains », au chapitre 1, les versets 16 et 17. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste et ainsi il aura la vie. » Chantons. Et avant de nous mettre à l'écoute du texte biblique, pour ce matin, je vous invite à la prière. Dieu de bonté, À l'écoute de ta parole révélée dans la Bible par la puissance de ton Saint-Esprit, ouvre mes oreilles afin que je perçoive la vie que tu me donnes. Aide-moi à l'entendre avec mon cœur et mes entrailles pour que je m'en laisse vraiment transformer. Ouvre ma bouche pour que je puisse te louer, partager tes merveilles et chanter tout ce que tu fais. Amen. Et c'est Frédéric qui nous guide dans la lecture.
Avec Sostène, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre.
Ah, excuse-moi, Frédéric. C'était les versets 18 à 31.
Ah mince.
Donc, si tu commences, ça va faire un peu long sinon. Donc les références, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, 18 à 31.
Je m'étais déjà préparé. Très bien. Bon, t'es allé. Donc, oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on dit, je détruirai la sagesse des sages, et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. Qu'est-ce que le sage peut dire encore, et l'homme instruit, et celui qui discute bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde avec sa sagesse n'a reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous, nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle, Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend juste, il nous choisit pour lui, et il nous libère du péché. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, il se vante à cause du Seigneur.
Rassemble les hommes, souffle du Dieu vivant.
folie, sagesse. Qui est sage? Qui est fou? Aux yeux de Dieu? Aux yeux des hommes? Dans notre tradition d'Église, la science n'a jamais été opposée à la foi. Elle est à sa mesure au service de l'homme et du monde. Et en aucun cas, les découvertes scientifiques ne peuvent faire douter notre foi. La foi jaillit d'une rencontre intime avec le Christ, et en cela, rien ni personne ne pourra jamais le remettre en question. Vous savez aussi que les plus grands génies sont de profonds croyants et reconnaissent cette limite que l'homme ne peut atteindre malgré toute sa science et qui appartient à Dieu seul. Il arrive toutefois que certains scientifiques tentent de décrédibiliser les croyants. Voici une étonnante recherche. Je cite. Présupposé de la recherche. Une zone du cerveau fonctionne au ralenti quand on croit en Dieu. Le cortex singulaire antérieur. Quel est son rôle ? Cette zone cérébrale sert à anticiper l'avenir et à nous avertir si les événements qui ont lieu correspondent à ceux que nous attendions. Des neurologues de l'Université de Toronto au Canada ont placé des individus croyants et athées dans un scanner et leur ont fait passer des tests mentaux où il fallait anticiper une réponse et ensuite prendre connaissance de la réponse correcte. Chez les personnes athées, le cortex singulaire s'active fortement en cas d'erreur. Il signale que le résultat n'est pas conforme à la prédiction. Chez les personnes croyantes, ce cortex s'active nettement moins. Lorsqu'un événement non conforme à leurs attentes se produit, cela déclenche une réaction beaucoup moins intense que chez les autres personnes. Vous l'avez compris, il s'agit donc de placer des personnes athées et croyantes dans un scanner et d'analyser leur activité cérébrale sur les images. Le compte-rendu continue, je cite. En quoi la religion réduit-elle les réactions à l'imprévu ? Dans la plupart des systèmes de croyance, un événement non conforme aux attentes peut toujours être reconsidéré et interprété de façon à cadrer avec le canevas théorique de la foi. Si un ami a trouvé la mort sur la route, si on vient de découvrir une maladie incurable chez un autre, c'est que Dieu l'a voulu. Et si l'on ne trouve pas d'explication, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est que les desseins du Seigneur sont impénétrables. Je ferme la parenthèse de l'étude. On entend bien ici, dans cette étude qui se veut scientifique, l'ironie, voire la moquerie. Et en réalité, cette personne exprime ici une théologie d'un Dieu tout-puissant qui disposerait à sa guise de ses sujets, de ses marionnettes pour la vie et pour la mort. Il semble que certains hommes de science traitent la religion en oubliant les précautions scientifiques et objectives. Écoutons encore un peu de ce compte-rendu. Cette vision du monde apporte évidemment des bénéfices inestimables. Un cortex singulaire antérieur qui fonctionne au ralenti entraîne moins de tensions psychiques. On se préoccupe moins des incertitudes qui entourent l'avenir, on cherche moins à explorer les possibles et à guetter les signes qui confirment ou infirment les prévisions. On est plus fataliste, on est moins stressé. La religion est d'ailleurs considérée par nombre de chercheurs comme un anxiolytique qui se serait répandu dans les différentes cultures en raison de cette vertu apaisante, aidant à affronter les craintes liées à la mort au caractère imprévisible et incontrôlable de l'existence, à condition d'y croire. Après l'opium du peuple, la religion comme anxiolytique. Si cela était vrai, quelles économies pour notre système de santé ? Et nos temples seraient pleins à craquer. Mais l'erreur est ici de comparer et de mélanger sagesse scientifique et humaine et folie de Dieu. Oui, bien sûr, et nous pouvons en témoigner, la foi apporte de la sérénité à nos vies, de l'apaisement en cas de coup difficile. Mais cela n'est pas parce que nous croyants sommes de grands naïfs qui essayons toujours de faire recadrer nos aspirations sur l'action supposée de Dieu. Non. Mais simplement, nous croyons, choisissons la confiance. Pour le dire autrement, nous vivons par la foi. Et la foi ne se détecte pas au scanner. Peut-être ses conséquences. Vous savez, c'est comme le vent ou l'amour. Dans la Bible, on nous explique cela. Nous en voyons les effets, mais nous ne les voyons pas, eux. Où est le sage ? Interroge Paul. Où est le docteur de la loi ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ? Cette interpellation est toujours d'actualité. Les docteurs de la loi sont à retrouver sur nos réseaux télévisuels, internet et sociaux, où nous trouvons celles et ceux qui dictent la pensée. Nous en avons encore été témoins pendant toute cette crise mondiale qui se poursuit, où chaque spécialiste assène sa vérité jusqu'à ce qu'elle soit détrônée par la suivante. Le raisonneur peut se trouver partout, du côté scientifique, politique, du côté du droit, mais aussi du côté du sage, du philosophe et bien sûr du religieux. Chaque époque possède sa sagesse humaine. À chaque sagesse humaine, on tente de comprendre Dieu. À chaque fois, l'humain échoue dans cette quête. Mais soyons très clairs, Paul ne critique pas la sagesse. Elle n'est pas critiquable puisqu'elle est l'œuvre de Dieu. Mais l'apôtre la dénonce lorsqu'elle se veut suffisante, norme unique et ultime. Oui, les sciences, la philosophie, le droit, la politique, les religions sont importantes en tant que sagesse humaine. Mais il est important qu'elles reconnaissent leurs limites. Elles ne peuvent pas expliquer le tout de la vie. La plénitude est en Dieu seul. Cette semaine, l'hebdomadaire Réforme est sur le théologien Jacques Ellul. Ceux qui sont abonnés ont peut-être eu le temps de lire ce dossier passionnant. Jacques Ellul, grand théologien, philosophe, penseur protestant, posait déjà dans ses réflexions sur la technique et la croissance, il y a 30 ans, la nécessité de limites à laquelle nous sommes cruellement confrontés aujourd'hui dans cette crise sanitaire. Il écrivait « Il faut poser comme principe, comme limite absolue, qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Notre folie moderne est de refuser cette finitude. » Incroyable leçon pour aujourd'hui. Les disciples du Christ peuvent et doivent s'investir dans les activités de la raison humaine comme don de Dieu. Mais dans ces activités, nous sommes appelés à rester en alerte, exactement l'inverse que ce que disait l'étude, que soi-disant les croyants, eux, croisaient les bras et ne se préoccupaient pas du monde. Nous sommes appelés à rester en alerte pour signaler quand ces sagesses dépassent les bornes, en voulant atteindre la sagesse de Dieu pour devenir alors folie humaine. Paul articule sagesse, folie des hommes, de Dieu. il embrouille un petit peu les choses. La sagesse devient folie. Il crée la confusion pour nous emmener à la proposition principale. En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. La sagesse du monde se heurte à la folie de la prédication. La connaissance de Dieu s'oppose au salut des hommes. Puis Paul continue. Les Juifs demandent des signes, les Grecs recherchent la sagesse. Des deux côtés, l'exigence est la même. On recherche des sécurités humaines. On recherche le miracle, garant de la véracité du message, ou encore une doctrine satisfaisante pour l'intelligence. Ce qui est condamnable, c'est que la demande de miracle et l'exigence de sagesse deviennent des préalables à la foi. Guéris-moi et je croirai en toi. Pourtant, la bonne nouvelle de l'Évangile nous invite, au contraire, à croire, à faire confiance pour recevoir la vie nouvelle. Remarquons que malgré les fausses routes, les Juifs et les Grecs sont aussi participants à la folie de la croix. Pourquoi cette prédication est-elle folle ? Paul écrit : Nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais pour ceux qui sont appelés, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Au premier abord, la prédication de la croix est le contraire de ce que les hommes attendent. Occasion de chute au lieu du signe de la puissance de Dieu. Une folie là où on attend de la sagesse. Mais une fois l'obscurité du vendredi saint et le silence du samedi surmonté, voilà la vie. Voilà l'adhésion donnée, la résurrection dans l'abandon de la foi. La croix est alors la réalisation suprême de cette attente, sagesse et puissance de Dieu uniquement. Et pour terminer, je vous invite à écouter ce texte que j'ai retrouvé qui imagine un Dieu en femme tisserand, aux prises avec la dureté du monde que nous choisissons parfois. Et toujours avec cette image de Dieu à l'œuvre dans l'espérance de son amour pour nous. Dieu est assise et pleure. La merveilleuse tapisserie de la création qu'elle avait tissée avec tant de joie est mutilée, déchirée en lambeaux, réduite en chiffon. Sa beauté est saccagée par la violence. Dieu est assise et pleure. Mais voyez, elle rassemble les morceaux pour tisser à nouveau. Elle rassemble les lambeaux de nos tristesses, les peines, les larmes, les frustrations causées par la cruauté, l'écrasement, l'ignorance, les tueries. Elle rassemble les chiffons du dur travail, des essais de plaidoyer, des initiatives pour la paix, des protestations contre l'injustice. Toutes ces choses semblent petites et faibles, les mots et les actions offertes en sacrifice dans l'espérance, la foi, l'amour. Et voyez, elle retisse tout cela avec les fils d'or de l'allégresse. Et une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que ne l'était l'ancienne. Dieu est assise, tissant patiemment, avec persistance et un sourire qui rayonne comme un arc-en-ciel sur son visage baigné de larmes. Et elle nous invite non seulement à lui offrir les lambeaux et les chiffons de notre souffrance et de notre travail, mais bien plus que cela, à prendre place à ses côtés, devant le métier de l'allégresse, et à tisser avec elle la tapisserie de la création nouvelle. Amen. Amen. Confie à Dieu ta route. Je vous invite à vous lever pour chanter le 4704 à la page 732 et nous chantons les quatre strophes. Je vous invite à rester debout pour confesser ensemble notre foi. Si vous le pouvez, souhaitez la confession de foi numéro 5 dans le petit feuillet, tout à la fin des recueils, la numéro 5. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les hommes. Amen. Et nous chantons le spontané « Mon seul abri, c'est toi ».
Mon seul abri, c'est toi.
Dieu notre Père, nous avons reçu aujourd'hui dans ta parole la folie de ton amour pour nous. À notre mesure, voici maintenant ce que nous te donnons. Une petite partie de notre argent pour que vive notre Église, ou plutôt ton Église, celle que tu nous as confiée pour partager cette folie de Dieu pour chacun de nous, dans l'amour, le pardon et l'espérance. Voici le moment de l'offrande, que notre don soit joyeux. Seigneur, reçois cette offrande, celle que nous te présentons, qui est un moyen parmi d'autres de te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec celles et ceux que tu nous as confiés. Tu es le béni pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci à Marie-Vonne, à l'orgue ce matin, qui, par la musique, par cette journée de la fête de la musique, a pu accompagner, porter, guider nos prières. Merci à Christophe et Frédéric à l'accueil. Merci pour la lecture, Frédéric. Alors, le programme de cette semaine, mercredi, le groupe de prière se retrouve au temple. Jeudi soir, c'est le conseil presbytéral qui se retrouve. Samedi, le groupe de jeunes. Vous voyez, les activités reprennent petit à petit. Et puis tout à l'heure, quand vous serez partis, on accueillera les catéchumènes. Alors ça a été un crève-cœur pour moi de leur dire de ne pas venir au culte. Mais voilà, les conditions sont telles que pour l'instant, on est encore limité pour accueillir des personnes. Donc la journée se poursuit ici avec les trois groupes de caté jusqu'à 14h30. Je partage également un appel de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui organise chaque année, vous le savez, la Nuit des Veilleurs, le 26 juin. Et pour cette année, il propose que chacun puisse se retrouver depuis chez lui, en allumant une bougie et en prenant un temps de prière, en retrouvant aussi sur le site internet un moyen d'être guidé dans cette prière pour rejoindre les chrétiens de plus loin, autour de cette cause de la défense contre la torture. Donc ça sera le 26 juin. Donc le 26 juin, ça sera vendredi soir. Alors pour la sortie, vous savez qu'on ne peut pas être tous dans le hall en même temps. Donc on peut certains rester par là pour discuter, se répartir dehors, il fait beau, voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas être tous ensemble dans le hall en même temps. Donc, essayer de se répartir dans nos locaux et à l'extérieur. Il y a toujours aussi le culte sur RCF, tous les samedis soirs à 18h pour la semaine prochaine. Le culte du 30 août, ça sera un culte de fête pour les jeunes qui terminent le caté avec les baptêmes et les confirmations. Et le 6 septembre à 9h30, c'est notre Assemblée générale. Je vous invite. Ah pardon, le CERA. Pour le mois d'août, Claudia, c'est ça que tu... Ah pardon, non, bien sûr. Merci. Dimanche prochain, j'avais oublié dimanche prochain dans la semaine. Dimanche prochain, donc le culte ici à 10h, un culte un peu plus court que d'habitude, qui sera suivi par l'Assemblée Générale du service d'entraide, juste après. Voilà, donc si, vous pouvez signer des procurations pour celles et ceux qui sont membres et qui ne pourraient pas être là. Claudia est présente, voilà, Norbert, il y a plusieurs personnes du CERA ce matin. Donc si vous êtes membre et que vous ne pourrez pas être présent, signez une procuration pour vous faire représenter. Voilà, excusez-moi pour cet oubli. Et pour le CERA, il y aura un goûter, normalement le troisième mardi du mois d'août, chez Daniel Jeannot à Verrier. Mais tout ça, ça sera annoncé... en temps utile. Alors, je vous invite à la prière les uns pour les autres. Ô notre Dieu, toi qui tisses les rêves, qui crée le monde et qui guérit les blessures, nous nous plaçons devant toi. Nous te remettons nos existences. Mystère de vie et de mort, de souffrance et de plaisir, de joie mélangée de tristesse, d'espérance et de douleur. Mais plus que tout, nous te remettons nos vies qui, nous le savons, sont remplies de ton amour. Cet amour débordant que tu nous as donné une fois pour toutes à la croix, et qui nous sauve chaque jour. Nous te remercions pour le don de ta présence, par ton esprit, en nous et parmi nous. Toi qui connais mieux que nous-mêmes les soucis et les besoins de nos cœurs, entends nos prières, reçois nos supplications, aide-nous à te les exprimer, dans la foi et dans l'espérance. Pour toutes celles et ceux qui souffrent de la haine, de la solitude, de la violence, de la maladie, pour tous ceux dont on abuse, pour les affamés et les désespérés, les isolés et les effrayés, nous te prions. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir chacun de tes enfants dans le monde entier. Aide-nous à accomplir le ministère de l'Église, celui que tu nous as confié. Aide-nous à utiliser notre sagesse pour témoigner de ton amour, de ta folie pour nous. Accorde-nous de marcher côte à côte dans la bienveillance, portée par ton amour et notre foi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre roc et notre rédempteur. Et nous rassemblons toutes nos prières en disant d'une même voix, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour recevoir l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Oui, c'est vrai, lorsque nous pensons à notre vie, nous reconnaissons que nous ne sommes pas des héros de la foi. Pourtant, Seigneur, tu veux te servir de nous. Tu nous appelles. Tu nous as choisis comme témoins. comme ton Christ est apparu à Marie de Magdala, qui, en allant l'annoncer aux autres, est devenu apôtre, comme il s'est manifesté à deux disciples en route vers Emmaüs et qui sont allés partager la nouvelle, comme il est apparu aux onze qu'il a fini par envoyer dans le monde entier, tu ne veux pas que nous restions indifférents, mais tu veux que nous nous mettions en mouvement pour sortir de nos vies, pour sortir de nos paroisses, afin de témoigner joyeux de ton évangile. Accorde-nous encore la confiance que la rencontre avec le ressuscité nous attend à chaque instant. Que la grâce de l'Éternel soit le sourire de nos vies. Que la fidélité du Christ soit le rempart de nos soucis. Que le souffle de l'Esprit-Saint soit la lumière de nos chemins. Oui, Dieu nous aime et par sa folie, il nous bénit, toutes et tous. Allons en paix. Amen. Nous chantons le dernier spontané.
Tu nous appelles.
Bon dimanche et bonne fête à tous les papas.